VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue sur VOA Afrique, mettant depuis la capitale américaine. Avec vous, Eric Manilakiza, à la une ce vendredi 27 octobre 2023, 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza. L'armée américaine frappe deux installations des gardiens de la révolution iranienne en Syrie. Au Burkina, une manifestation pour dénoncer des restrictions de liberté interdites. Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce vendredi à l'Élysée pour évoquer les liens entre Paris et Dakar. Est de la RDC, MSF appelle au respect des installations médicales. Deux morts dans des manifestations post-électorales au Mozambique. Le patron de la Fédération tunisienne de football écroué dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de corruption. Nouvelle journée de traque aux États-Unis après la fuite qui a fait 18 morts dans le Maine. L'une des pires de ces dernières années. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. L'ONU affirme que beaucoup plus de gens vont bientôt mourir dans la bande de Gaza à cause du siège imposé par Israël, qui prépare une offensive terrestre après 3 semaines de bombardements sur le territoire palestinien en riposte à l'attaque sanglante du Hamas. Jacques Aristide.
Gaza a un besoin urgent d'aide humanitaire significative et continue, a déclaré ce vendredi à Jérusalem Philippe Lazzarini, le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le 7 octobre, une équipe de médecins du Comité international de la Croix-Rouge est entrée aujourd'hui dans le territoire palestinien depuis l'Égypte, accompagnant un convoi humanitaire. L'armée israélienne a mené dans la nuit un raid avec des troupes au sol, appuyées par des avions contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU se dit préoccupé par le fait que des crimes de guerre aient été commis et le soient encore dans cette guerre, ajoutant qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza. L'armée israélienne accuse le Hamas de se servir des hôpitaux comme centre de commandement et comme cachette avec un accès vers son réseau de tunnels, ce que le groupe palestinien a démenti. Israël accuse également le Hamas d'utiliser le carburant dans les hôpitaux pour son infrastructure militaire. En Israël, un nouveau tir de roquette a touché Tel Aviv dans le nord. Et en Jordanie, des manifestants réunis à Amman aujourd'hui, ont réclamé l'annulation du traité de paix avec Israël.
Parallèlement, les communications et Internet ont été coupées selon le gouvernement du Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007. Les bombardements par air, mer et terre sont les plus violents depuis le début de la guerre, a affirmé le Hamas, accusant Israël de préparer des massacres. En réponse, le Hamas a annoncé avoir tiré des salves de roquettes sur Israël. Les États-Unis ont mené des frappes hier jeudi contre deux installations utilisées par les gardiens de la révolution iranienne et des groupes affiliés dans l'est de la Syrie, a annoncé le ministre américain de la Défense Lloyd Austin. Le Pentagone a annoncé ces deux opérations après que le président Joe Biden a adressé un message au dirigeant suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pour le mettre en garde contre toute attaque visant les troupes américaines qui menacent de provoquer un élargissement de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Un message direct a été envoyé. Je n'irai pas plus loin, a confirmé un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mozambique, deux hommes, dont un policier, sont morts lors de manifestations qui ont dégénéré lors des manifestations de l'opposition qui continue de contester les résultats d'élections municipales massivement remportées par le Frelimo au pouvoir, indique une ONG locale ce vendredi. Nani Tetalani.
Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Maputo où des centaines de personnes ont mis le feu à des pneus et perturbé la circulation ainsi que dans les villes septentrionales de Nacala et Nampula. La police a ouvert le feu contre plusieurs cortèges, rapporte l'ONG CIP. Selon des journalistes de l'AFP, des manifestants de l'opposition, encadrés par une forte présence policière à Maputo, ont brûlé des pneus et jeté des pierres. Un policier aurait été attaqué par la population à Nampula et a été gravement blessé avant de décéder à l'hôpital, précise le CIP. Il ajoute que deux autres personnes, dont un enfant de 10 ans, y ont été blessées par balle. Un homme a été frappé et tué par un objet contondant à Nakala, toujours selon l'ONG. Le parti au pouvoir, le Frelimo, a été déclaré vainqueur dans 64 des 65 municipalités dont le scrutin organisé il y a plus de 2 semaines a confirmé jeudi la commission électorale, ce qui a remis le feu aux poudres. Le principal parti d'opposition, la RENAMO, conteste ces résultats et revendique la victoire, à Maputo notamment.
Une manifestation prévue mardi à Ouagadougou par un collectif de syndicats afin de dénoncer des restrictions de liberté a été interdite par la mairie de la capitale du Burkina Faso qui invoque le contexte sécuritaire. Cette interdiction a été prise au regard d'inquiétudes, notamment les risques sérieux d'affrontement, les risques réels d'infiltration à la manifestation, l'accentuation de la fracture sociale entre les différentes composantes de la société a-t-il justifié. L'appel à un rassemblement le 31 octobre au sein de la Bourse du Travail de Ouagadougou avait été lancé mi-octobre par une quinzaine de syndicats burkinabés réunis dans un collectif, la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina. Le président Emmanuel Macron doit s'entretenir ce vendredi avec son homologue sénégalais Macky Sall au palais de l'Élysée pour évoquer les liens entre Paris et Dakar, a indiqué la présidence de la République. Ce sera pour les deux dirigeants l'occasion de faire un tour d'horizon de la relation bilatérale entre la France et le Sénégal, a-t-elle précisé. Maxime Mokom, ex-chef des milices anti-Balaka, libéré la semaine dernière par la Cour pénale internationale, s'oppose à son renvoi en Centrafrique où il risque la détention et la torture, selon ses avocats ce vendredi. MSF a appelé ce vendredi au respect des installations médicales dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, où deux structures de soins appuyées par l'ONG se sont retrouvées ces derniers jours au milieu des combats entre différentes factions armées. Ici aux États-Unis, les forces de police de l'État du Maine intensifient leur traque pour arrêter un homme qui a abattu 18 personnes avec un fusil semi-automatique dans un bowling et un bar dans la ville de Lewiston. Claire Moirigibourg.
Une quantité phénoménale d'effectifs, des forces de l'ordre, de temps et d'efforts sont mis en œuvre 24 heures sur 24 pour retrouver le suspect principal, a déclaré le chef de la police de la ville de Lewiston, David Saint-Pierre, dans une conférence de presse ce matin. Robert Card, un réserviste de l'armée de 40 ans, est accusé d'avoir ouvert le feu dans une salle de bowling et un bar-restaurant, faisant également 13 blessés. La police et le FBI sont déployés sur plusieurs sites, dont un bord de rivière où avait été retrouvée la voiture du suspect. Il compte explorer les fonds avec un sonar et des plongeurs. Le tireur étant toujours en cavale, les habitants ont reçu l'ordre de se confiner chez eux. Écoles et commerces ont fermé leurs portes, transformant Lewiston, une commune de 36 000 habitants, en ville fantôme. Le président américain Joe Biden a lui déploré un acte tragique et insensé et appelé le Congrès à adopter une interdiction des armes d'assaut. Aucune majorité n'a jamais été trouvée depuis des décennies pour changer la législation sur les armes aux États-Unis.
Les États-Unis et la Chine ont entamé depuis jeudi des pourparlers à la faveur de la visite de 3 jours à Washington du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, des échanges qui pourraient déboucher sur l'annonce d'une prochaine visite du président Xi Jinping. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a donné le ton de sa présence aux États-Unis, sitôt sorti d'une audience jeudi au département d'État avec son homologue américain Anthony Blinken. Wang Yi a appelé à une relation stable avec Washington et souhaite que les deux grandes puissances rivales affrontent leurs divergences avec calme. Le chef de la diplomatie chinoise se rend aujourd'hui à la Maison-Blanche où il devrait s'entretenir avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et probablement avec le président Joe Biden lui-même. Cette visite intervient au moment où les deux grandes puissances se livrent une compétition acharnée et assurent vouloir gérer leurs relations de façon responsable. Le rapprochement sino-russe, la guerre en Ukraine et surtout celle entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, devrait aussi s'imposer dans les discussions au moment où la communauté internationale s'inquiète d'un embrasement du conflit. La visite de Wang Yi devrait également préparer celle du président chinois Xi Jinping aux États-Unis, qui pourrait avoir lieu en marge du prochain sommet des pays de l'APEC, coopération économique pour l'Asie-Pacifique, à San Francisco à la mi-novembre.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Michel Claire-Joseph.
Près de deux tiers des pêcheurs au Sénégal affirment gagner moins qu'il y a cinq ans et voient leurs conditions de vie se détériorer, selon un rapport publié jeudi par la Foundation EJF. C'est une conséquence des pratiques non durables et destructives de l'environnement, des chalutiers de fond, essentiellement contrôlés par des acteurs étrangers, européens et chinois, explique l'ONG. La pêche contribue à 3,2% du PIB et 10,2% des exportations du Sénégal. La Namibie a interdit l'exportation de lithium non traité et de minerais de terres rares pour profiter de la demande mondiale croissante de ces métaux utilisés dans les énergies renouvelables. L'interdiction vise à inciter les entreprises minières à investir dans des installations de traitement local, permettant au pays de créer des emplois et de générer plus de revenus. Le développeur de compensation carbone South Pole a mis fin à sa participation à un projet au Zimbabwe qui a généré des millions de crédits carbone grâce aux efforts de prévention de la déforestation autour du lac Kariba, a déclaré l'entreprise suisse.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Pour commencer, Ligue africaine de football, des demi-finales alléchantes ce dimanche 29 octobre avec un classico et un derby maghrébin.
On aura effectivement des demi-finales très alléchantes de cette première édition de la Ligue africaine de football qui s'ouvriront notamment par un classique mettant aux prises les clubs sud-africains de Mamelodi Sundowns et égyptien Al Ahly, 11 fois champion d'Afrique en titre, ce dimanche à 13h temps universel à Pretoria en Afrique du Sud. Ces deux équipes s'affrontent chaque année en Ligue des champions depuis 2019. Le même jour, un derby maghrébin conclura les demi-finales avec le Wydad Casablanca qui affrontera l'Espérance de Tunis au stade Mohamed V au Maroc. Les matchs retour auront lieu le mercredi 1er novembre. L'Espérance jouera à domicile contre le Wydad en Tunisie, tandis qu'Al Ahly recevra Mamelodi Sundowns à 18h au Caire.
L'Espérance et le Wydad Casablanca battent respectivement le TP Mazembe et Enimba et se qualifient pour les demi-finales de la première édition de la Ligue africaine de football dimanche.
Après avoir perdu le match aller 1-0 à l'extérieur, l'Espérance de Tunis a réalisé une remontée au match retour à domicile, battant le TP Mazembe 3-0 hier jeudi à l'occasion des quarts de finale retour de la Ligue africaine de football. Le club tunisien se qualifie donc pour les demi-finales de cette compétition sportive africaine dimanche. Cette victoire permet à l'Espérance d'affronter en demi-finale le Wydad Casablanca qui a battu le club nigérian d'Enimba, double champion d'Afrique. Le club marocain Wydad Casablanca s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant 3-0 à domicile face à Enimba, scellant ainsi une victoire 4-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la Tanzanie et le Maroc s'imposent à l'aller. Le Cameroun trébuche.
Tous les vainqueurs de la journée abordent le match retour avec un avantage de 2-0, ce qui leur permet de s'attendre à des matchs relativement faciles mardi prochain. La Tanzanie s'est imposée 2-0 face au Botswana, prenant ainsi une longueur d'avance avant le match retour au Botswana prévu pour le mardi 31 octobre à 16h temps universel. Le Cameroun, pour sa part, a subi une nouvelle défaite décevante face à l'Ouganda 2-0 après avoir été éliminé des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2024.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nanit. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizadeh, retour avec vous pour les dossiers du jour. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a suspendu ses opérations humanitaires dans le territoire de Nyiragongo, dans l'est de la RDC. Cette décision fait suite à la détérioration de la situation sécuritaire provoquée par les nouveaux affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense dans cette zone de la province du Nord Kivu. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Cette décision de suspension des activités du PAM, Programme alimentaire mondial, dans les territoires de Nyiragongo, est une mauvaise nouvelle pour Catherine Tsongo, une déplacée vivant dans les camps de Kanyaruchinya.
Nous allons finalement mourir de faim dans ces camps de Kanyaruchinya. C'est les PAM qui nous amenaient à manger, nous donnaient de l'huile, du riz et autres. Même s'ils ne nous assistaient pas tous les jours, au moins ils faisaient quelque chose. Maintenant, nous ne savons pas ce que nous allons devenir avec nos enfants dans ces camps, car ils risquent de mourir de la famine.
Sur son compte X, anciennement Twitter, le bureau du PAM en République démocratique du Congo a indiqué suspendre son action dans les territoires de Nyiragongo suite à l'éclatement des combats entre groupes armés proches de la ville de Goma, une décision qui, à en croire Bruno Mwitowere, un défenseur des droits humains congolais, aurait pu être contournée.
C'est vraiment avec consternation que nous pouvons apprendre l'arrêt des activités de l'organisation internationale PAM dans les cas des déplacés qui environnent la ville de Goma, alors que jusqu'aujourd'hui il y a des déplacés qui continuent à fuir les affrontements dans leurs milieux respectifs. Déjà là, il y avait un grand problème de satisfaire ces déplacés, et donc c'est vraiment un problème que même les organisations internationales ne peuvent pas servir cette population à cause de l'insécurité qui est en train d'approcher de peu à peu la ville de Goma.
Face à cette situation, Justin Bizimana, un acteur de la société civile du territoire de Rutshuru, lui aussi déplacé des guerres, en appelle au gouvernement.
Nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour libérer les zones de provenance pour que nous puissions rentrer chez nous. Il faudrait que le gouvernement, que tous les acteurs qui peuvent aider puissent faire en sorte que la paix revienne dans les zones. Mais également, en attendant que cela se fasse, que les gouvernements puissent avoir une politique d'encadrement de ces populations sur les plans socio-humanitaires.
Selon l'équipe de communication du PAM RDC, la levée de cette suspension dépend de l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Depuis près d'un mois, le Mali est confronté à des coupures intempestives d'électricité. Les récentes déclarations de la ministre de l'Énergie sur les antennes de l'ORTM pour donner des explications ont exacerbé les tensions entre son département et le syndicat de la société Énergie du Mali. Pour avoir un aperçu de la situation sur le terrain et de la réaction du syndicat face aux accusations de la ministre, suivez ce reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
À Bakodjikoroni Golf, en commune 5 du district de Bamako, l'alimentation de Binaboaré est frappée de plein fouet par les coupures. Le groupe électrogène qu'il utilise comme alternative pour éviter les pertes commence à peser sur ses finances. Nous souffrons beaucoup de cette coupure qui nous cause des dégâts. Nous faisons recours au groupe électrogène pour dépanner. Mais s'il faut y mettre 15 000 francs CFA de carburant par jour, cela nous occasionne des pertes énormes. La ministre de l'Énergie, pour expliquer les raisons de ces coupures, a pointé un doigt accusateur vers les travailleurs de la société Énergie du Mali. Toute chose qui révolte davantage Binaboaré. Si ceux qui font le travail ne sont pas à la hauteur, qu'ils soient remplacés. On vient d'apprendre aussi par la ministre qu'il y a du vol de carburant au moment où la population souffre de ces coupures. Si en plus du fait que l'on accuse le gouvernement, il y a aussi ces pratiques, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Président de l'Association des professionnels de l'électricité au Mali, Garaba Diallo, estime plutôt que ces coupures sont dues aux travaux entrepris ces deux dernières années.
La réalité est que l'année 2022-2023 a été une année très dure pour le Mali côté énergétique. Aussi l'année des grands travaux pour l'EDM. Parce que de 2022 à 2023, il y a eu des travaux d'extension et beaucoup d'interconnexions. Donc tu sais que la réhabilitation d'un réseau est beaucoup compliquée que la nouvelle installation. Donc voilà tout ce qui pose un peu les coupures. Quoi.
Lors de son assemblée générale, tenue ce jour pour rassurer les travailleurs, le syndicat a accusé la ministre d'être allée vite en besogne. Baba Dao, secrétaire général Sinacom.
Il faut s'informer pour ensuite parler de certains problèmes. Ça, c'est mieux. Elle-même a dit, et puis ses propos qui est déjà parti. Et elle dit encore que les investigations continuent. Avant, le résultat des investigations est déjà prononcé.
En attendant l'amélioration promise par la ministre, nombreux sont les Bamakois qui broient du noir. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Pour un président qui a fait campagne sur la fin des guerres qui durent depuis toujours, Joe Biden doit maintenant faire face à un conflit à Gaza, en plus de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des tensions sino-américaines croissantes à propos de Taïwan. La manière dont il relèvera ces défis pourrait avoir un impact sur sa candidature à sa réélection en 2024. Le reportage de la correspondance en chef de VOA La Maison-Blanche, Patsy Oudakuswara, récit Claire Morin-Gibourg.
Alors que le nombre de Palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes dépasse les 7000 selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, le président américain Joe Biden s'est exprimé.
Je ne pense pas que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées. Je suis sûr que des innocents ont été tués et c'est le prix à payer pour mener une guerre.
Cette déclaration a suscité la colère des Arabes américains, des musulmans et d'autres personnes qui protestaient déjà contre la façon dont M. Biden avait géré la guerre à Gaza. Robert McCaw du Conseil des relations américaines aux islamiques, le plus grand groupe de défense des musulmans aux États-Unis.
C'est absolument choquant et déshumanisant. Le président se sentirait-il mieux si seulement 1000 enfants palestiniens étaient morts?
Les progressistes sont également en colère. 9 membres du Congrès, pour la plupart issus de l'aile progressiste du Parti démocrate de Joe Biden, ont voté contre une résolution soutenant Israël et condamnant le Hamas, parce qu'elle ne déplorait pas la perte de vie palestinienne. Plusieurs sondages montrent que les Américains sont plus nombreux à sympathiser avec les Israéliens qu'avec les Palestiniens, bien que les jeunes Américains soient plus divisés. Via Skype, écoutons Larry Sabato, directeur du Centre politique de l'Université de Virginie.
Avec les juifs américains, un groupe très important en termes de vote et des contributions au Parti démocrate, il y a eu un éloge presque à l'unanimité du président Biden et de la façon dont il a géré cette affaire.
Les républicains du Congrès sont de plus en plus sceptiques quant à l'engagement de Joe Biden de financer les guerres étrangères. Y compris le président nouvellement élu de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est favorable à Israël, mais opposé à l'envoi de fonds supplémentaires à l'Ukraine, sans condition.
Le premier projet de loi que je présenterai bientôt sera un projet de soutien à notre cher, très cher ami Israël. Et nous n'avons que trop tardé.
La plupart des électeurs qui approuvent la manière dont M. Biden a traité la question a augmenté de 9 points depuis les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas contre Israël. L'impact de la guerre à Gaza sur la réélection de Joe Biden en 2024 dépendra de la capacité à contenir le conflit. Au Liban voisin, les attaques transfrontalières se sont intensifiées entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran. De nouveau, Larry Sabato.
Si nous nous impliquons directement dans cette guerre sans fin, oui, Biden en souffrira. Mais tant qu'il gardera les troupes américaines hors des combats, je ne pense pas que ce sera aussi controversé. Et je ne pense pas que ce sera un facteur majeur quand les gens voteront.
Un autre facteur clé peut jouer, selon M. Sabato, la possibilité de minimiser le nombre de morts palestiniens et d'acheminer l'aide humanitaire.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique.
Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Deux jours après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie ce vendredi sa traque dans le nord-est des États-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Du fait de la cavale du tireur, les habitants ont reçu l'ordre de se confiner chez eux, transformant Lewiston, une commune de 36 000 habitants, en ville fantôme. Écoles et commerces ont fermé leurs portes. Pour témoignage, nous avons joint Étienne Douayo, résident de Lewiston.
Je suis, comme vous le dites, depuis ce jour-là jusqu'à ce matin. On est toujours confiné, moi-même je suis confiné. On nous a dit de rester à la maison et on attend, on n'a pas encore levé cette mesure.
Est-ce que vous savez ce qui se passe au moins à l'extérieur?
Oui, maintenant aujourd'hui quand même, on commence à sortir. J'ai déjà vu qu'il y a des stations de service pour le carburant qui ont commencé à ouvrir. Et ce qui se passe à l'extérieur, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours les voitures de la police et puis l'hélicoptère qui survole toujours à la ville. Donc là où je suis, je m'arrête là parce que je ne sais pas ce qui peut se passer au-delà de ma localité.
Le tireur est toujours en cavale.
La population a paniqué, et surtout parce qu'on est confiné. Et puis, je pense que la panique commence à se dissiper. Sinon, le premier jour, c'était la panique totale. Mais maintenant, avec les informations que l'on soit, la panique diminue. Mais quand même, ce n'est pas facile de confiner parce que ce n'est pas tous les ménages qui ont les stocks de survie. Et c'est ça qui ajoute ce côté un peu comment les gens sont confinés, les besoins alimentaires. Sinon, il y a la police et les autorités qui tranquillisent la population.
Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants africains, notamment, qui habitent dans cette ville. Est-ce que vous parvenez quand même à aller travailler?
Il y a, comme vous le dites, il y a beaucoup d'immigrés ici. Les gens ont été confinés les premiers jours. Le premier jour, c'est tout. Ils ont dit que jusqu'à maintenant même, ceux qui étaient sur le travail sont restés là-bas et ceux qui devaient les remplacer, ils ont été confinés. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça, il n'y a pas encore une mesure qui viendrait pour dire que les gens peuvent vaquer à leurs occupations normalement. Mais ça n'empêche pas que certains services peuvent aller dans la douceur, mais on est toujours consigné au reste à la maison.
Au regard de ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que ça va changer votre mode de vie?
Pas du tout. Je pense que ça, c'est un cas qui est arrivé. Je pense que ça va pas changer notre mode de vie. Non, pas du tout.
C'était Étienne Ndouayo, résident de Lewiston. Le monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Omanilakiza, ce micro, à la mise en onde, Michel Claire-Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Al-Faïda FM, Kaolack, Sénégal, bien d'autres encore. Sans oublier sur